You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Au sommaire de ce journal, des manifestations historiques secouent Hong Kong, où les affrontements avec la police ont fait mercredi plus de 70 blessés. Au Royaume-Uni, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, est officiellement en campagne pour succéder à Theresa May au poste de Premier ministre. Et en Australie, la police a tiré sur deux hommes dont le profil inquiète les services antiterroristes. On commence donc à Hong Kong où des manifestations d'une ampleur jamais vue depuis la rétrocession du territoire à la Chine par la Grande-Bretagne ont eu lieu ce mercredi. Les manifestants s'opposent au vote d'une loi autorisant l'extradition des ressortissants hongkongais vers la Chine. Le Parlement local hier a été encerclé et 70 personnes ont été blessées au cours d'affrontements entre les manifestants et la police. Le reportage de Vincent Souriot de RFI.
Avec des scènes jamais vues, du gaz lacrymogène dans la cour du Parlement, la police presque débordée par des manifestants qui ont tenté d'envahir le siège du pouvoir législatif, le centre de Hong Kong paralysé par les rassemblements, les lieux de pouvoir encerclés de manière pacifique par des dizaines de milliers de personnes qui ont bloqué les principales artères de la ville. Il y a eu du flottement, les autorités se sont fait surprendre par la discipline, l'organisation de cette foule très déterminée. On a vu des policiers reculer devant cette jeunesse masquée, casquée, qui avait anticipé les affrontements, qui avait fait des provisions de projectiles, de pavés, qui a monté des barricades et même déployé des équipes médicales en cas de besoin. Et ça n'a pas manqué. En fin d'après-midi, heure locale, le ton est monté quand l'exécutif a voulu disperser le mouvement. Des tirs de balles en caoutchouc, des grenades défensives, les forces anti-émeutes qui mènent des assauts coordonnés. En France, ça peut paraître banal, mais à Hong Kong, c'est rarissime. Le bilan est lourd, au moins 70 blessés, y compris des policiers et des journalistes. On attend de voir si les manifestants vont maintenir la pression dans la rue ces prochains jours.
Et ce mouvement de protestation est également suivi de très près en Australie. Mary Spain, la ministre des Affaires étrangères, a appelé les manifestants et les autorités à éviter de nouveaux élans de violence. Elle a aussi réaffirmé le soutien du gouvernement fédéral au droit des peuples à manifester pacifiquement et à la liberté d'expression. On quitte maintenant Hong Kong pour prendre la direction de son ancienne autorité tutélaire, la Grande-Bretagne, où Boris Johnson, qui est considéré comme le favori pour succéder à Theresa May en tant que Premier ministre, a officiellement lancé sa campagne. Il a notamment promis aux conservateurs, dont il fait partie, qu'il ferait sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne d'ici au 31 mai, et ce avec ou sans accord. Sur place, Muriel Delcroix de RFI.
Boris Johnson souhaitait avant tout faire cette promesse aux conservateurs. Sous ma houlette, nous quitterons l'Union européenne le 31 octobre, avec ou sans accord, car il en va de la survie du parti Tory, menacé d'extinction s'il n'honore pas le résultat du référendum. Au-delà de ce message, néanmoins, le favori n'a donné aucun détail sur la façon dont il comptait sortir de l'impasse actuelle. Boris Johnson a en fait surtout voulu montrer qu'il était le seul prétendant crédible en défendant à maintes reprises son bilan en tant que maire de Londres. Personnalité exubérante et controversée, le candidat a évité ces derniers temps toute interview ou apparition publique. Cette volonté de faire profil bas a été largement interprétée comme une stratégie délibérée de ses conseillers d'empêcher tout dérapage verbal de la part d'un candidat connu pour ses nombreuses gaffes et déclarations intempestives. Mais à force de vouloir prouver qu'il a la carrure d'un Premier ministre, Boris Johnson a gommé ce mercredi une bonne partie de ce qui plaît tant à ses partisans. Il s'en est tenu à ses notes et à un discours plus plat que d'habitude. Surtout, il n'a donné aucune vision claire de ce qu'il veut pour le Royaume-Uni. Résultat, ses supporters seront confortés dans l'idée qu'il est à même de mener à bien le Brexit, mais le plus dur sera de réussir à convaincre le reste du parti qu'il a un véritable plan et qu'il est digne de confiance. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Et comme l'a rappelé Muriel Delcroix, la date limite pour que Boris Johnson s'est engagé à respecter pour sortir de l'Union européenne, c'est donc le 31 octobre et pas le 31 mai, comme nous vous l'avions dit un peu plus tôt. On part maintenant en Inde, où des centaines de milliers de personnes ont dû être évacuées dans le Gujarat, alors que le cyclone Vayu se rapproche dangereusement des côtes de cet État qui se trouve à l'ouest de l'Inde. Le cyclone Vayu est, selon les météorologistes, actuellement au-dessus de la mer d'Arabie, où il est en train de gagner en intensité. Et il doit atteindre les côtes indiennes un peu plus tard dans la journée, avec des rafales qui iront jusqu'à 170 km/h. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a prononcé mercredi son deuxième discours de politique générale depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Parmi les nombreuses annonces, un projet de loi bioéthique visant à étendre la procréation médicalement assistée, qu'on appelle en France la PMA, aux femmes seules ainsi qu'aux couples lesbiens. Le projet de loi doit être adopté le mois prochain au Conseil des ministres, puis il sera ensuite examiné par l'Assemblée nationale à la fin septembre. On fait le point avec Anna Piekarek de RFI.
La PMA est actuellement réservée en France aux couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité médicalement constatée. Pour Lorraine Chenel, du collectif des associations inter-LGBT, son extension aux femmes seules et aux couples lesbiens est une très bonne chose.
C'est une excellente nouvelle puisque ça fait depuis 2013 qu'on nous annonçait un projet de loi reporté d'avis consultatif en avis consultatif et là, enfin, le quotidien des femmes va pouvoir changer.
Pour bénéficier d'une insémination artificielle, elles n'auront notamment plus besoin d'aller en Belgique ou en Espagne où cette aide médicale à la procréation est ouverte à toutes les femmes, sans exception.
Actuellement, ce sont des milliers de femmes qui sont obligées d'aller à l'étranger avec des risques pour leur santé, parce qu'il y a une mauvaise coordination entre les médecins, et avec des risques financiers, puisque ça peut aller jusqu'à quelques dizaines de milliers d'euros. Et ça exclut nombre de femmes qui n'ont pas les moyens de s'offrir cette PMA actuellement.
Les détails du projet de loi ne sont pas encore connus. Pour leur part, les associations homosexuelles réclament que la PMA pour toutes soit remboursée par la Sécurité sociale et que la double filiation maternelle soit reconnue dès la naissance de l'enfant.
En Australie, la police a tiré hier sur deux hommes à la frontière entre les États du Victoria et des Nouvelles-Galles du Sud. Deux hommes dont on apprend aujourd'hui qu'ils étaient sous la surveillance des services antiterroristes en raison de leur conversion à une vision extrémiste de l'islam. C'est donc mercredi après-midi que la police a tenté d'entrer en contact avec ces deux hommes dans la commune de Barnoo Wattar, mais ils ont réagi en attaquant les policiers avec un couteau et un tomahawk, ce qui a poussé la police à faire usage de leurs armes à feu. Les deux hommes qu'on suppose être des frères sont âgés de 19 et 30 ans, ils sont actuellement hospitalisés et ont subi des blessures graves. Ross Gunter de l'unité antiterroriste de l'État du Victoria précise que le profil de l'aîné de ces deux hommes était particulièrement inquiétant.
That older individual in our terminology would be at a threat level that's very high. In other words, if we go to an extreme threat level, we would pass an investigation of a person at an extreme level across to the joint counterterrorism team. In this case, it was one level below that, so it was appropriately investigated by my security intelligence unit.
Et le Premier ministre de l'État du Victoria, Daniel Andrews, a pour sa part salué l'action des forces de l'ordre.
The police involved in this incident are also being given the welfare support that they need as well. It's a very serious incident to escalate to that point. But these are people with a history of violence. And again, I thank police for their prompt response and for the professionalism and the bravery that they show every single day.
Sally McManus, la secrétaire du Conseil australien des syndicats, souhaite rencontrer le syndicaliste controversé John Setka, qui nie avoir dénigré les efforts de Rosie Batty pour lutter contre les violences conjugales. John Setka, qui est le président de la Fédération de la construction dans le Victoria, a été suspendu du Parti travailliste où il était encarté et dont il va probablement être expulsé. Une campagne de dénigrement basée sur des mensonges et uniquement lancée pour permettre à certains politiciens de gagner quelques points, selon John Setka, qui estime en outre que son ou ses accusateurs devraient, eux, être exclus de la Fédération syndicale de la construction, des mines et de l'énergie. Une fédération dont le positionnement dans cette affaire a déçu l'ancien Premier ministre Kevin Rudd, qui s'en est ému sur le Seven Network.
The CFMMMEU, or whatever it's called these days, needs to have a long, hard look at itself in terms of the damage which certain of its leaders have delivered to the corporate brand of the Labor Party over the years. And Setka's one of them. So before we go into Mr. Setka's civil liberties and whether he said this and whether he said that, I'd call upon the union to have a strong, hard look at itself.
Et pendant ce temps, à Canberra, le gouvernement fédéral doit présenter prochainement de nouvelles lois visant à permettre l'exclusion de délégués syndicaux de leur fédération lorsque ceux-ci auraient enfreint la loi. Une réforme qui a déjà été tentée par le passé, mais qui n'avait pas passé le filtre du Parlement. Avec cette nouvelle affaire et ce scandale qui entoure John Setka, cette loi a peut-être désormais un peu plus de chances d'être adoptée au Parlement. Et on reste dans la capitale fédérale où un ancien avocat militaire mis en examen pour avoir divulgué des documents à des journalistes d'ABC a été entendu hier par la Cour suprême du territoire de la capitale australienne. Les documents en question, ceux qu'il est censé avoir fait fuiter, sont au cœur d'une enquête qui a été publiée par ABC en 2017 sous le nom Afghan Files. Et il révèle que des membres des forces spéciales australiennes auraient abattu en Irak des insurgés, mais également des civils, parmi lesquels des enfants. Davin William McBride, donc l'homme à l'origine de ces fuites, a été mis en examen au mois de mai, notamment pour infraction au Defence Act et aussi pour divulgation non autorisée d'informations. Il a choisi hier devant le tribunal de plaider non coupable pour l'ensemble de ses charges et il espère désormais qu'il aura droit à un procès équitable.
I should have completely free rein to say this is what happened at that cabinet meeting or this is what happened at that meeting of generals, and they won't be able to say, oh, you can't say that. So the only person that really needs to hear it is the judge. Of course, I'd like some journalists there because I do worry I could be railroaded.
Et on fait maintenant un point rapide sur la Coupe du monde de football féminin. Les Matildas, l'équipe nationale australienne, retournent-elles sur le terrain demain pour affronter le Brésil. Mais elles ne sont pas totalement sûres de pouvoir compter sur Claire Polkinghorne qui joue en défense. La joueuse qui est blessée au niveau du tendon, elle a des douleurs dans cette partie du corps, pourrait être remplacée en défense centrale par la vice-capitaine Steph Catley. Et malgré la défaite contre l'Italie qui a placé cette défense australienne sous le feu des critiques, Steph Catley reste confiante pour le prochain match.
That is obviously a possibility. We haven't finalized everything just yet, but that's a role that I know how to play. And if I'm needed there, then I can definitely step in there and do a role. But you know, we've got an experienced backline, so we've still got the cool, calm, collected heads in there that can control the backline no matter who's in there.
Et les joueuses françaises, pour leur part, se sont imposées 2-1 face à la Norvège. On jette maintenant un coup d'œil à la météo de ce jeudi 13 juin, qui est dans l'ensemble assez humide, avec des averses à Perth, 18 degrés, à Adélaïde, 16 degrés, des risques de pluie aussi à Melbourne, où il fait 17 degrés, mais aussi à Hobart, 15 degrés, et à Canberra, 16 degrés. Le temps est en revanche plus clément à Wollongong, 21 degrés, à Sydney, même température, et à Newcastle, 22 degrés. Il fait beau et chaud à Darwin, 32 degrés, il y a aussi du soleil à Brisbane, 25 degrés, et quelques averses rafraîchissent Cairns, où il fait 27 degrés.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.